Je m'appelle Frédéric, j'ai 27 ans et j'apprends l'indonésien à l'INALCO. Nama saya Frédéric, umur saya 20 tahun dan saya mahasiswa di INALCO untuk belajar bahasa Indonesia. Belum selesai masih apa namanya? Editing.
Itu yang di gunung gitu
kan. Apa?
Yang di gunung kan?
Ya di gunung. Shootingnya sudah selesai, tapi sekarang masih editing.
De quoi rêvent les gens qui apprennent des langues lointaines? Et jusqu'où peuvent-elles les conduire?
Ma vie, ma langue.
As-tu perdu ta langue? Pendant longtemps, Frédéric n'arrivait plus à parler l'indonésien, la langue de cet archipel d'Asie du Sud-Est qu'il a vu naître. Elle l'a rejeté, brutalement, vers 3 ans lorsque sa famille est venue s'installer en France, le pays de son père. Il y a quelques années, après des études d'art, Frédéric est devenue réalisatrice. Elle vit toujours en France. L'Indonésie est le pays où elle tourne tous ses films. Mais comment se faire comprendre par les acteurs indonésiens que l'on dirige lorsqu'on est devenu tellement française qu'on ne parle plus leur langue? À l'INALCO, par le cinéma, la cuisine et ses amitiés, Frédéric se lance à la recherche de sa langue oubliée, avec un rêve: diriger les comédiens de ses prochains films en indonésien. Cet apprentissage a aussi tout d'une seconde naissance. C'est la singulière aventure que Frédéric nous raconte, assise sur son futon par une journée pluvieuse.
Dans la vie, le rêve, ce serait que je puisse réaliser et diriger mes acteurs et mes actrices en indonésien et pas en anglais. Enfin, de façon professionnelle, après l'idée de parler avec ma famille en indonésien, ça c'est sûr. Juste pouvoir être en Indonésie sans être bloquée par une barrière. Alors moi je suis née en Indonésie. Du coup, ça a été même ma première langue. Je l'ai entendue dans le ventre de ma mère, et quand je suis sortie, c'est la langue que j'ai parlée. Et le français, du coup, est arrivé vraiment après, quand je suis venue en France à 3 ans. Et on est arrivé en France pour l'école, en fait, pour que je puisse suivre une éducation française. Et j'ai grandi, du coup, au même endroit, dans le Vercors, à côté de Grenoble, dans les montagnes. Et le Vercors, c'est parce que mon père y était. C'est là d'où il venait. Des montagnes, quoi. Mon père est français, ma mère est indonésienne, et donc de ce qu'on m'a raconté, c'est que j'ignorais ma mère, en fait, pendant un moment. Il y a eu tout un moment où je parlais plus et j'ignorais ma mère, et donc elle s'est mise à parler, à apprendre le français, à me parler français, et petit à petit, je me suis remise à parler et lui répondre en français. Et quand elle essayait de me parler indonésien, je lui répondais en français automatiquement. Donc je comprenais tout ce qu'elle disait, mais je voulais pas parler.
Et c'était quoi, par exemple, les expressions fortes que vous entendiez?
Alors, ce qui reste, du coup, à la maison, c'est les ordres. Donc, en gros, va te brosser les dents, va te coucher, va te doucher, va prendre ton bain. Donc, va te brosser les dents, c'est gosok gigi, ayo Fred mandi, va prendre ton bain ou ta douche, va te laver, ayo tidur, c'est l'heure de dormir.
Vous pourriez nous chanter une chanson, un extrait d'une chanson de votre enfance quand vous étiez petite?
Ouais, de ce que je comprends, parce que du coup c'est un souvenir, j'ai pas vraiment revérifié, c'était Bintang kecil di langit yang biru. Na 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 na. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi. Moi, dans ma tête, quand on me l'a chanté, j'imaginais vraiment les étoiles. Ça parle d'étoiles, du ciel qui est bleu, et que moi, j'ai envie d'aller danser, enfin voler et danser avec les étoiles. J'ai ces images-là, en fait, avec les quelques mots dont je me souviens. Mais ma mère, elle a vraiment coupé, en fait, le lien. Tout ce qui est culture, je l'ai pas du tout eu. Enfin, s'il y a eu la cuisine avec ma mère, mais sinon, le reste... Je l'ai appris ailleurs, en fait. Je suis allée le chercher ailleurs.
Comment est-ce que vous viviez l'absence de cette langue?
Au début, bien. C'était même plutôt... j'étais contente. Je pense que j'étais contente d'apprendre le français, de savoir parler français, d'être comme tous les autres enfants de l'école, quoi. Et j'ai pas du tout perçu ça comme un manque. C'est vraiment venu plus tard, quand on est retourné en Indonésie, que je me suis rendu compte que je pouvais plus communiquer avec mes tantes, mes cousins, et qu'en fait, je me mettais à leur parler en français et qu'eux comprenaient pas. Donc il y a eu l'effet inverse, et que je parlais pas anglais. Enfin maintenant, je leur parle anglais, malheureusement, anglais et indonésien. Mais que je leur parlais comme un enfant de 3 ans, en fait. Je me suis rendu compte de ça, et que ça m'embêtait. de m'exprimer comme un enfant de 3 ans, alors que mes cousins qui ont le même âge que moi, 8 ans, ils parlaient comme des enfants de 8 ans, et j'étais incapable d'avoir des conversations autres que je veux manger ça, je veux faire ci, je veux dormir, je suis fatiguée. Je pouvais pas raconter une histoire, par exemple. J'avais pas le vocabulaire pour. Ça changerait.
Là, il y a des livres pour enfants à côté de nous, sur votre lit. Alors ça, qu'est-ce que c'est, par exemple ?
Je les ai pas eus quand j'étais jeune. On me les a offerts, là, il y a pas longtemps. Un ami qui bosse dans cette maison d'édition et qui les a trouvés. Et là, par exemple, on retrouve Brosser les dents. Et en fait, vu que c'est à l'écrit, c'est pas Gosok Gigi, comme elle me disait ma mère, c'est Meng Gosok Gigi. Il y a le préfixe qui vient. Donc c'est plus soutenu, en fait, c'est plus formel.
Qu'est-ce que c'est, cet animal ?
Donc c'est un petit tigre qui va se coucher. En fait, le livre, c'est pour au moment de dormir. Donc ça dit « Stlamakan malam aku memili buku cherita ». Après avoir mangé, après avoir dîné, je choisis un livre d'histoire. Mangosok Gigi. À chaque fois, on voit le petit tigre en train de, de choisir son livre, de se brosser les dents. Donc il se brosse les dents. Memakei piyama. Je mets mon pyjama. Et il va dans son lit, donc c'est Naik Tampat Tidur. C'est drôle parce que si je traduis mot pour mot, Naik, moi ça veut dire monter en fait, grimper, aller au-dessus. Donc ça fait vraiment. Parfois j'ai des interprétations comme ça. Je grimpe dans mon lit, je monte dans mon lit.
Quel a été votre déclic pour vous inscrire à l'INALCO ?
Alors, j'ai commencé en faisant un film en fait à Yogyakarta, qui est une ville à Java. Et donc, ça a commencé où j'ai fait un film là-bas et j'avais besoin de traducteurs, traductrices pour avoir des sous-titres en français. Et en prenant contact avec des étudiants qui étaient là-bas, je me suis rendu compte que l'offre de cours était géniale. Et donc, je me suis inscrite, c'est grâce à eux, en fait, que je suis là.
C'est quoi l'indonésien que vous apprenez à l'INALCO ?
À l'INALCO, on apprend la langue plutôt formelle, en fait. Il y a plusieurs niveaux de langue. Moi, ce que j'ai appris, ce qui m'a été transmis par la famille, c'est plutôt la langue, une langue orale, familiale. À l'INALCO, c'est très formel. Il n'y a pas les mêmes préfixes et les mêmes affixes, en fait. Par exemple, les verbes, à l'oral, on va pouvoir les dire sans affixes, alors que... dans le langage formel et même à l'écrit, dans les livres, il y aura un préfixe en fait avant.
Et alors, qu'est-ce que c'est un affixe et un préfixe ? Est-ce que vous auriez un exemple pour qu'on comprenne ?
Je peux me regarder un livre pour m'aider. Qu'est-ce que je pourrais dire comme mot ?
C'est quoi ce livre ?
Alors ça, c'est un dictionnaire de poche français-indonésien qui est assez vieux parce que c'est sûrement mon père qui a dû l'acheter quand il allait en Indonésie. Peut-être au moment où il a rencontré ma mère, du coup. Il faudrait que je trouve un verbe. Par exemple, tomber, c'est jatuh. Et c'est comme ça que je l'ai toujours perçu, moi, quand j'étais petite, même aujourd'hui, je dis jatuh. Mais à l'écrit, on va rajouter men jatuh.
Ce qui, du coup, change juste la prononciation, mais pas le sens.
Ouais, le sens, c'est le même. Ça change peut-être l'adresse selon la personne à qui on parle, si on écrit, ça, c'est le contexte en fait qui va changer ça.
Et alors l'indonésien que vous apprenez, on le parle dans toute l'Indonésie ou il y a d'autres langues ? Le javanais par exemple ?
Alors en fait, du coup ça j'ai compris grâce à l'histoire, donc c'est un archipel l'Indonésie qui existe, enfin l'Indonésie, l'État indonésie est arrivé après l'indépendance. En gros. Donc, c'est un pays qui a été colonisé par les Pays-Bas. Et avant, en fait, c'était plutôt des royaumes qui faisaient le lien entre les îles. Et donc, chaque île, chaque région a sa langue. Et donc, l'île de Java, le javanais, à Bali, c'est le balinais. Et puis, après, je connais pas trop les autres îles, enfin, les autres langues dans les îles, mais même, il y a des régions où il y a un dialecte, en fait. Et au moment de l'indépendance, a été décidé de faire une langue nationale qui est l'indonésien. On dit le Bahasa Indonesia, qui mélange du coup du malais. Malais, c'est plutôt région Sumatra, plutôt au nord-ouest de l'Indonésie, du javanais et aussi des emprunts à l'anglais, au néerlandais, parfois au français, au portugais, parce qu'il y a aussi beaucoup de portugais qui sont venus.
Comment est-ce qu'on appelle l'indonésien en Indonésie ?
La langue indonésienne, du coup, c'est Bahasa Indonesia.
Et ça veut dire quoi, Bahasa Indonesia ?
Parler indonésien. Nico. Mot pour mot, je le dirai comme ça. Je le traduirai comme ça.
Qu'est-ce qui vous fait rêver autour de cette langue ?
C'est vraiment pour me reconnecter avec ma famille.
Et avec votre mère aussi en France, du coup ?
Bah avec ma mère, c'est... Oui. Bah d'enlever toutes ces barrières de la langue, parce que du coup, elle parle pas non plus très très bien français. Et j'ai remarqué qu'avec mon père, on a des conversations très profondes qu'on développe. Enfin, il y a vraiment des arguments qui... On arrive à avoir des débats. Et avec ma mère, c'est très simple, en fait. C'est très superficiel, nos conversations. Et j'ai pas le niveau en indonésien pour encore pouvoir parler de choses très profondes, intimes. Et elle a la moins le niveau, enfin elle commence petit à petit, hein, elle parle de mieux en mieux français, mais elle n'a pas non plus le niveau pour. Du coup, on a des conversations qui sont souvent courtes, on parle pas beaucoup, beaucoup. Ce qui a été transmis par ma mère, c'est la cuisine, parce que j'adore manger, et du coup, elle a su que c'était là une façon de me transmettre quelque chose, si c'était pas par la langue ou par l'histoire. Parce que même l'histoire de la famille, tout ça, j'en ai pas eu beaucoup. Je pose des questions maintenant parce que ça m'intéresse, mais avant, j'étais assez déconnectée.
Bonjour, Marjorie, enchantée.
Oui, enchantée.
Cette passion pour la cuisine, Frédéric la partage avec son ami Rio. Cet écrivain et traducteur indonésien vit en France depuis 2 ans. Frédéric l'aide en français, il l'aide en indonésien.
Je parle pas bien français, désolé.
Mais non, c'est très bien.
Ça sent. Bahasa indonésia, katanya.
Ah, bonnet. Tu parles indonésien ?
Non. Non. Non, j'aimerais bien. Ce matin, Rio retrouve Frédéric chez elle pour préparer un repas typiquement indonésien. Alors là, qu'est-ce que vous faites ?
Alors du coup, je mets de l'huile dans ma poêle là, que j'ai fait chauffer. Je vais chauffer mon huile et je vais mettre échalote et ail.
Dans les films que vous avez réalisés en Indonésie, j'aimerais bien que vous nous expliquiez quels sont les titres de ces films, ce que ça signifie. Mmh. Et puis il y a quelque chose qui est frappant dans les deux films, c'est que vous filmez les gens de loin. Est-ce que c'est une façon de vous rapprocher d'eux petit à petit, justement, de reprendre cette langue, de se la remémorer?
C'est drôle, je ne l'avais pas interprété comme ça, mais peut-être, pourquoi pas. Peut-être que petit à petit, je ne me sentais pas de venir filmer très proche les gens. Mais que aussi, j'aime le décor, en fait. J'aime les personnes, mais j'aime voir dans quels environnements elles sont. Et alors, les titres, premier film, c'est Gado Gado. Donc c'est le nom d'une salade indonésienne, une salade, un mélange de légumes et de riz, avec une sauce cacahuète. Et en fait, c'est un hommage à un auteur qui s'appelle Pram Tour, un auteur indonésien qui lui avait écrit une nouvelle qui s'appelle Gado Gado, et il explique dedans pourquoi il l'appelle Gado Gado. Il dit que c'est un mélange pour lui d'histoires diverses et éparses, et qu'en fait, pour lui, c'est le meilleur plat du monde. C'est plein de petites histoires qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Mais en fait, le lien, c'est nous qui le créons. Enfin, là, c'est la sauce cacahuète dans le plat. Mais le spectateur, la spectatrice le voit, fait des liens seul, en fait. Et oui, c'était juste pour raconter des petites histoires sans dramaturgie, en fait. Juste raconter un peu le quotidien de certaines personnes et de les mettre ensemble. Et du coup, le film met à la suite plusieurs petites histoires.
Quand vous avez commencé à apprendre l'indonésien à l'INALCO, est-ce que c'était difficile, par exemple ?
Non, pas du tout. Alors, quand je suis arrivée en cours, c'était justement très facile. Ça a coulé de source. Et en fait, je remarquais que c'était facile parce que je voyais les autres galérer. Parce que la grammaire, elle n'est pas pareille, en fait. Et que dans le sens des mots, pour moi, ça paraissait évident que l'ordre des adjectifs, par exemple, adjectif non, tout ça... Ça me paraissait évident que ça soit dans ce sens-là, et en fait, les autres n'y arrivaient pas. Ils devaient apprendre, en fait, à déconstruire le français pour apprendre la langue, alors que moi, en fait, c'était là. Du coup, j'avais juste du vocabulaire à apprendre, et c'était plutôt chouette.
Et cette langue, vous la trouvez plus facile que la langue française ?
Ouais. En fait, dans le français, ce qui est compliqué, c'est la conjugaison. Enfin, il faut apprendre pour je, tu, il, tous les pronoms, et pour chaque temps, alors que en indonésien, il n'y a pas. Ça, il n'y a pas de conjugaison. Il y a d'autres façons, en fait, de faire, qui sont aussi compliquées, mais je trouve ça plus simple. Puis je sais aussi que c'est connu. Enfin, les linguistes le disent que c'est une langue qui est plutôt facile. Parce qu'au départ, le malais, c'était une langue qui s'apprenait très facilement parce que elle servait aux marchands, en fait. En un, deux mois, les marchands qui arrivaient en Indonésie pouvaient l'apprendre et pouvaient communiquer facilement avec les locaux. Et du coup, vu que l'indonésien a repris beaucoup de termes du malais, il reste assez facile à apprendre. Pour les choses de base, hein, les choses basiques. Après, quand on part dans la littérature et tout ça, là, ça devient plus compliqué.
Et vous auriez des exemples, justement, de choses faciles à construire comme ça?
Là, le truc le plus simple que je vois, c'est vraiment les préfixes. En fait, de dire que chaque verbe n'est pas conjugué. Et sinon, il y avait d'autres mots que je trouvais beaux. Mais je sais pas si c'est si simple, parce que c'est pas évident non plus. C'est juste, ça existe comme ça, mais Matahari, qui est le soleil, est constitué du mot Mata, qui veut dire yeux, et Hari, c'est le jour. Et je trouvais ça beau. Les larmes aussi, c'est Air Mata. Donc Air, c'est l'eau, et Mata, c'est les yeux. L'eau des yeux. Et je trouvais ça beau, en fait, de me dire que... En fait, ça rend la chose... Elle est là, quoi. C'est l'eau des yeux. Il n'y a pas besoin d'inventer un mot. Ouais. En plus, comme le soleil, c'est l'œil du jour. Matahari.
Comment est-ce qu'on fait pour faire revivre une langue comme ça dans sa mémoire, pour réapprendre une langue qu'on avait oubliée?
Ça, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça fait revivre des choses, mais petit à petit, ça vient effacer d'autres. Parce que vu que je déconstruis, je réapprends et je réapprends mieux. C'est pas avec des petits souvenirs qui s'effacent et qui sont parfois faux, en fait, parce que j'étais aussi enfant. Je réinvente quelque chose, en fait, je réinvente une identité. En perdant, du coup, un petit peu la petite enfant de 3 ans qui parle pas très bien indonésien. Mais
qu'est-ce que vous réinventez, par exemple?
Ma façon d'être, quand je m'exprime, je deviens juste plus adulte, en fait. C'est comme si une partie de moi qui était enfant est en train de grandir. Du coup, avec tout ce vocabulaire en plus et de la grammaire en plus, j'étais capable de dire d'autres choses. J'étais capable de poser des questions, de raconter, d'argumenter. Du coup, ça me permet d'exister auprès de ma famille autrement, quoi.
Qu'est-ce que ça fait de retrouver une langue ?
Ça restait un peu bloqué au fond de moi depuis plusieurs années. J'avais envie de retrouver quelque chose. Mais je me rends compte que c'est plus de la réinvention, plus une renaissance. Quelque chose de nouveau, en fait, vraiment, qui vient. Ce que ça fait à l'âme, ça apaise un peu, ouais, de la frustration. Et surtout, je le voyais aussi avec d'autres amis qui avaient un peu le même parcours que moi, franco-indonésiens, qui, eux, parlaient, mais qui n'avaient pas eu ce petit traumatisme en arrivant en France. Et du coup... qui parlait presque couramment indonésien, et moi j'y arrivais pas, en fait. Donc du coup, on était dans des événements indonésiens en France, tout le monde parlait indonésien, et moi je comprenais tout, mais c'était impossible pour moi de parler. Et j'espérais pouvoir régler ça et que ça me ferait du bien à l'âme. Mais en fait, ça reste encore compliqué, il y a encore des blocages qui sont là. Ça me le fait avec les personnes que je connais, mais avec les personnes que je connais pas, qui me connaissent pas, c'est plus simple de parler. Ça se rallume comme un volcan, en fait, qui rentre en éruption.
Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez dire qu'en indonésien?
Quand les choses, elles sortent seulement en indonésien, c'est quand elles sont peut-être sous la colère ou sous... c'est quand il y a de l'émotion, en fait. Et là, ça sort pour ma mère. Et du coup, avec ma sœur, on comprend. Mais ce qui reste, c'est la langue, elle est quand même assez effacée. Juste ces 3 accords, tu sens que c'est quelque chose... C'est de la souffrance. C'est triste, quoi.
Cette langue que Frédéric a longtemps oubliée fait maintenant pleinement partie de sa vie. Elle s'appelle comment?
Bersama Bintang.
Avec les étoiles.
La jeune femme l'apprend, la parle, la mange et l'écoute. Elle la chante aussi, en jouant au piano ses chansons indonésiennes préférées.
Kita lalui semua derit tangis canda tawa
Kini hanya untaian kata, hanya itulah yang aku punya. Tidurlah selamat malam, lupakan sadarlah aku. Dalam tidurmu bersama bintang.
Voilà, ça veut dire le refrain, c'est beau. C'est tidurla, dors, bonne nuit, bonne soirée, enfin bonne nuit, ouais, salamat malam. Lupakan sajala aku. Oublie-moi, juste oublie-moi. Mimpila dalam tidurmu. Rêve à travers mon sommeil, dans mon sommeil, avec les étoiles.
Qu'est-ce qui vous touche le plus dans cette langue, Frédéric ?
Bah, c'est très lié à moi, du coup. C'est quand je regarde un film indonésien, je suis super émue, super touchée, parce que ça m'évoque mon enfance, et je sais que c'est des choses qui me touchent que moi aussi. En fait, elle est assez intime. Si je regarde un film indonésien avec une autre personne qui ne parle pas la langue, eh ben, je vais sentir qu'il y aura un décalage, qu'elle n'aura pas accès à certaines choses. Et en même temps, elle aura accès à une partie de moi, en fait, que j'ai toujours cachée. Toute mon adolescence et tout, personne ne savait que je parlais indonésien.
Pourquoi est-ce que vous le cachiez ?
En fait, je le cachais, je le disais pas, c'était pas très important, pas très intéressant. Je voyais pas l'intérêt, en fait, de dire ça.
Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre façon d'être tous les jours ? Parce que cette exploration, les artistes ont souvent amené, effectivement, à s'explorer eux-mêmes. Et est-ce que ça vous a permis, par exemple, de faire vos films autrement ?
Bah là, j'ai surtout envie de tourner en Indonésie maintenant. Est-ce que ça change quelque chose dans mon rapport à la création ? Peut-être à l'écriture. Au moment de l'écriture, dans la réalisation, je suis pas sûre, je suis quand même très attachée au dialogue. Je sais que c'est super important pour moi, les mots.
Alors, vous les écrivez dans quelle langue, du coup ?
Je les écris... Ah non, j'allais dire que je les écris en français, mais en fait, le prochain qui est en cours d'écriture, j'ai commencé à l'écrire en indonésien. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour pratiquer, faire un petit exercice d'écriture comme ça, j'ai commencé à l'écrire en indonésien.
Les coïncidences entre son âme et sa langue, entre ses intuitions et son geste artistique, Frédéric va encore les approfondir. À travers son apprentissage de l'indonésien, mais aussi par le tournage de son prochain film en Indonésie, terre originelle d'une langue qui l'a fait renaître. Ma vie, ma langue est une série de podcasts originaux, imaginés, écrits et incarnés par Marjorie Bertin, réalisés par Simon Decreuse. Un merci particulier à Éléonore Herreras et Eve Dufresne pour m'avoir ouvert les portes de l'INALCO et accompagné dans la réalisation de cette série.